Bonjour à tous et à toutes. Pour ce nouveau message dans la suite de l'épître de Jacques, on va regarder aujourd'hui quelques versets, la fin du chapitre 3. Avant, j'aimerais rappeler la logique de l'épître de Jacques jusqu'à présent, en tout cas la manière dont Jacques développe les idées dans les chapitres 1, 2 et 3. Il commence par les actes extérieurs, les œuvres extérieures, notre comportement les uns avec les autres dans l'Église. Puis il va remonter à la motivation de ces actes, c'est-à-dire est-ce que cela procède d'une foi vivante, c'est-à-dire conduite par l'Esprit, ou est-ce qu'il s'agit d'une foi morte et par conséquent religieuse, et on en reste aux actes extérieurs. Donc, une fois qu'il a parlé du comportement extérieur, il regarde quelle est la motivation interne. Est-ce que cela procède d'une foi vivante ou pas? Ensuite, il remonte un peu plus loin en disant que cela va se traduire par notre langue. Notre vie intérieure va se traduire par la manière dont on utilise notre langue. Est-ce que c'est une langue qui est inspirée, maîtrisée, comme un joug que l'on met sur le mors, la bouche d'un cheval sauvage, qui s'appelle notre être naturel? Ou alors, est-ce que notre langue peut aussi bien maudire que bénir? Et là, ça montre qu'il y a une œuvre au niveau de la foi qui n'a pas été faite. Elle n'est pas encore centrée sur Jésus. Ensuite, à partir de la langue, il va dans le monde des pensées, et ça va être l'objet d'aujourd'hui. Parce que, évidemment, la langue procède de ce qui vient du cœur, et donc c'est une expression de nos pensées. Donc c'est le thème d'aujourd'hui, hein. Et nous verrons la prochaine fois, dans le chapitre 4, il va aller encore plus loin, et il va cette fois aller au niveau de la source de tout ça, c'est-à-dire la convoitise. Et je rappelle, sans faire le message de la prochaine fois, que convoitise et désir, c'est le même mot. Donc cet élan intérieur, quand il est tourné vers Dieu, c'est un désir. Quand il est tourné vers ce que Dieu a donné, c'est un désir. Mais quand cet désir est tourné vers quelque chose qui n'est pas selon la volonté de Dieu, cela devient convoitise. Donc la solution du chrétien pour marcher par l'esprit, ce n'est pas de tuer le désir, mais c'est de l'orienter là où il faut le mettre. Ça sera la prochaine fois. Toute petite parenthèse par rapport à la langue. Ça, c'est une question que je me pose depuis souvent. La langue, comme on l'a vu, est l'expression de ce qu'il y a dans le cœur. Mais j'aimerais faire un petit pas de côté et mentionner en très très rapidement la question du parler en langue. Vous voyez, l'usage de la langue, le parler en langue est un usage possible de la langue. Alors, pour que les choses soient claires, le parler en langue est un don biblique et il n'y a aucune raison que ce soit arrêté il y a 2000 ans. Donc, que ça soit clair là-dessus. Mais malheureusement, ce que je vois souvent dans certains milieux, ce n'est pas le don des langues selon la parole de Dieu, mais une glossolalie. Et donc, on peut s'interroger là aussi dans le contexte de l'épître de Jacques, de l'usage de cette langue que certains n'arrivent même pas à maîtriser. Donc une glossolalie. Je ne parle même pas du fait que c'est fait de manière collective, quand la parole en parle de manière individuelle, que souvent il n'y a pas de traduction là où il devrait y en avoir un, etc. etc. Je soulève juste la question à propos de la langue. J'aurais pu le faire la dernière fois. Je ferme la parenthèse. Donc voilà, vous voyez que Jacques, il suit une idée qui va de l'extérieur et qui va aller au cœur de ce qui nous motive tous, c'est-à-dire le désir. Donc aujourd'hui, on est l'étape juste avant, ce sont les raisonnements, et vous allez voir comment. Donc on va prier avant que je lise le texte d'aujourd'hui. Père Céleste, comme l'a dit notre frère Jean Daris, tu vois tout, tu entends tout, mais bien plus que ça, tu vois nos cœurs, tu vois les pensées de nos cœurs, tu les lis, Tu connais les désirs de notre cœur. Tu sais vers quoi ou vers qui plutôt ces désirs sont orientés. Donc, Seigneur, que tout ce qui est partagé ce matin puisse contribuer à purifier tout cela depuis l'extérieur, mais pas l'extérieur seulement. Ça, ce sont les religieux qui s'arrêtent là. Mais que ça aille vraiment jusqu'au fond, jusqu'au cœur, jusqu'à l'intérieur de nos êtres. Au nom de Jésus, amen. Donc le texte d'aujourd'hui, c'est la fin du chapitre 3, les versets 13 à 18. Alors c'est dommage, j'aurais dû donner à Toby une copie de ce texte, parce qu'en fait il forme un joli chiasme. Alors je vais essayer de vous le montrer, je ne sais pas si vous le voyez bien. Un chiasme, c'est un texte qui a une structure particulière. Au début, on dit la même chose qu'à la fin, puis la deuxième partie, l'avant-dernière partie, et donc toujours dans un chiasme, il faut retenir que ce qui est important, c'est ce qui est au centre. Et là, le centre, ça va être les raisonnements. Donc, c'est pour ça que le message de ce matin sera concentré sur les raisonnements. Donc voilà, toujours pareil, le texte à partir de traduit à partir de l'araméen. Jacques 3 à partir du verset 13. Qui d'entre vous est sage et instruit? Instruit, avisé, prudent. Qu'il montre ses œuvres par une conduite ou une manière de vivre excellente dans une sagesse humble. Ça, c'est le premier terme. Mais s'il y a en vous de l'envie, c'est le même mot que la jalousie, le zèle amer, ou de la dispute, de la rivalité dans vos cœurs, ne vous élevez pas ou ne vous vantez pas, n'enflez pas contre l'intégrité. Dans nos traductions, nous avons souvent contre la vérité. Là, en araméen, c'est contre l'intégrité. Si tu parles bien d'une œuvre dans le cœur, avoir un cœur intègre. Ne vous élevez pas contre l'intégrité et ne mentez pas. Et c'est là le cœur du message de ce matin, parce que cette sagesse-là ne descend pas d'en haut. Quand elle se manifeste par de l'envie, de la zèle, du zèle, des disputes, elle ne vient pas d'en haut. Là aussi, ça va changer par rapport aux traductions habituelles, mais elle est terrestre, elle provient de raisonnements et de calculs de l'âme. Je pense que dans les traductions, on a souvent « elle est charnelle ». Là, c'est beaucoup plus précis. Elle provient de raisonnements et de calculs de l'âme. Et elle provient, in fine, des démons. Ouch. Et c'est là qu'on revient sur les thèmes d'avant, car où il y a une envie amère et de la dispute dans les cœurs, là aussi il y a du trouble et du désordre et toutes sortes de choses mauvaises. Et on revient au thème de la sagesse du départ. Or la sagesse qui vient d'en haut, elle est pure, elle est remplie de paix, elle est humble, elle est obéissante, elle est remplie de compassion et de miséricorde et de bons fruits. Elle est sans division ou partialité et elle est sans acception de personne. C'est-à-dire, littéralement, en araméen, elle ne reçoit pas les visages. En langage standard, ça veut dire elle n'est pas hypocrite. Elle ne met pas un masque. Or, les fruits de la justice sont semés dans la tranquillité pour ceux qui œuvrent la paix, qui mettent en œuvre la paix, les artisans de paix. Donc voilà le texte d'aujourd'hui. Donc je vais passer assez vite sur le début et me concentrer sur les raisonnements et les calculs. D'abord, il est dit, qui d'entre vous est sage et instruit ? Qu'il montre ses œuvres. Et là, évidemment, c'est le raccord avec ce que l'on a dit la dernière fois. Une foi sans œuvre est une foi morte. Mais pas n'importe quelle œuvre. Ce ne sont pas les œuvres. Je recommence à chaque fois parce que ça semble être quelque chose d'assez difficile à comprendre pour beaucoup. Ce ne sont pas les œuvres de la chair, les œuvres paillardes, et ce ne sont pas les œuvres de la loi. Hein? Paul dit bien que la foi s'oppose aux œuvres de la loi. Mais la foi dont parle Paul, c'est la foi vivante. Et Jacques nous explique ce qu'est la foi vivante. C'est la foi obéissante. C'est la foi obéissante. Ce sont des œuvres, donc, dont on n'a pas l'initiative. Ce sont des œuvres préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Donc, sans relation vivante avec le Seigneur, pas d'œuvre préparée d'avance. La foi vivante, donc, elle marche dans l'obéissance. Elle n'initie pas, elle obéit. Je rappelle ce que je disais Jésus. Je dis ce que j'entends dire du Père et je fais ce que je vois faire du Père. Jésus était dans l'obéissance. Donc c'était bien des œuvres vivantes qui procédaient de sa foi, c'est-à-dire de sa confiance vivante en Dieu le Père. D'accord? Donc toujours pareil, les œuvres paillardes de la chair, les œuvres religieuses, et la troisième voie, qui sont les œuvres de l'esprit, qu'on ne peut pas connaître si on n'est pas en communion avec Jésus, pour devenir instrument de son corps. Donc voilà, Jacques relie donc cette sagesse d'en haut avec des œuvres qui sont les œuvres de l'esprit, et non pas les œuvres religieuses que l'on fait par hypocrisie pour paraître bien aux yeux des hommes. Et il dit également que cette pratique des œuvres doit être accompagnée avec une sagesse humble. Juste un petit mot sur l'humilité. Parce que souvent l'humilité, c'est marcher avec la tête penchée, avec une tête comme ça, pour montrer aux hommes combien on est humble. C'est pas ça l'humilité. L'humilité, c'est, il a été question du regard tout à l'heure, là encore, c'est quand on est conscient qu'on a au-dessus de nous Jésus. C'est ça l'humilité. Autrement dit, je me place en dessous. Je me positionne sous lui. Et donc, on peut être humble en étant très réservé d'attitude extérieure, comme on peut être humble et très exubérant extérieurement, parce que l'intérieur est soumis à Jésus. Et l'humilité, c'est ça. Et je me souviens un frère qui m'avait dit un jour, un frère bien-aimé, hein, qui m'avait dit un jour, ah, si quelqu'un dit de lui qu'il est humble, il prouve par là qu'il est orgueilleux. Et je lui ai répondu, Jésus a dit, je suis doux et humble de cœur. Voilà. Donc, être humble, pourquoi? Jésus pouvait dire ça, parce qu'il était constamment sous le regard du Père. Et nous devons être constamment sous le regard du Seigneur. Psaume qui a été lu tout à l'heure par Jean d'Arris, c'est exactement ça. C'est ça l'humilité. C'est de se positionner au-dessous d'eux. Et de mettre Jésus au-dessus d'eux. Quelqu'un a dit tout à l'heure, sanctifier Jésus dans notre cœur. Le mettre à part dans notre cœur, il est une place unique dans notre vie. Et plus Jésus a une place unique dans notre vie, plus nous sommes humbles. Ça veut dire on reconnaît notre place face à Dieu. Donc vous voyez, ce n'est pas lié à une attitude extérieure. Hein, les pharisiens faisaient ça au coin des rues. Ils voulaient toujours montrer leur piété par leur attitude extérieure. Non, ce qui compte, c'est l'attitude intérieure. Proverbe 11, verset 2, quand vient l'orgueil, vient l'ignominie, mais la sagesse est avec les humbles. Proverbe 15, la crainte de l'Éternel enseigne la sagesse et l'humilité précède la gloire. Voilà, on peut trouver plein de passages comme ça qui lient la sagesse avec l'humilité, et en particulier dans les proverbes. Et donc, pour gagner un petit peu de temps, je vais directement aller au cœur du message d'aujourd'hui. La sagesse qui est remplie d'envie, de disputes, de comparaisons les uns avec les autres, de jugements les uns contre les autres, parce qu'un tel ou une telle ne fait pas les choses exactement comme on pense qu'elle devrait le faire, et que voilà, toutes ces choses-là, Jacques nous dit que ce n'est pas une sagesse qui vient d'en haut, mais elle est terrestre. Et elle provient de calcul. En araméen, c'est le verbe « choshav », Et c'est intéressant quand on regarde ce verbe-là, parce qu'il est constamment dit dans les évangiles que les pharisiens calculaient, ils font des calculs dans leur tête. Leur marche religieuse était une marche de calcul, avantages, inconvénients, voilà. De quoi vais-je pouvoir tirer profit? C'est constamment du calcul. Alors, pour montrer cela, et in fine, Jacques nous dit que ces calculs, ça a une inspiration démoniaque. Donc, comme je l'ai dit, les pharisiens raisonnaient. Alors, je ne vais pas prendre tous les exemples qu'il y a dans les évangiles, je vais juste en prendre un ou deux. Par exemple, dans Matthieu 21, Marc 11, Luc 20, les religieux vont dire à Jésus, mais par quelle autorité fais-tu ces choses-là? Ils veulent le challenger. Évidemment, dans leur tête, c'est s'il dit que ça vient de Dieu, blasphème, si ça ne vient pas de Dieu, alors. Mais Jésus va les coincer. Il va les coincer avec leur propre raisonnement. C'est très étonnant comment Jésus fait. Parce que qui t'a donné cette autorité? Disent les religieux à Jésus. Sous-entendu, elle vient d'en haut, elle vient d'en bas. Mais dans leur tête, ça venait d'en bas. N'oublions pas ce que les religieux avaient dit à Jésus quand ils chassaient des démons. Ah, oh, ils les chassent par Belzéboul. Les religieux avaient déjà fait leur. Et évidemment, si Jésus avait répondu, cela vient de Dieu. Ah, mais pourtant tu violes le sabbat. Voilà, ils cherchaient à le coincer constamment. Alors Jésus va leur envoyer la chose, étonnamment. Il va leur poser ce que j'appelle une question binaire, qui n'a que deux solutions. Il va les coincer. Le baptême de Jean, est-ce qu'il vient du ciel ou est-ce qu'il vient des hommes? Et là, les religieux se mirent à calculer. Ah oui, mais si on dit que ça vient du ciel, il va nous dire, mais pourquoi vous ne vous êtes pas alors fait baptiser par Jean-Baptiste? Mais si on dit que cela vient des hommes, alors, on va avoir la foule contre nous, parce que tous croient que c'est un prophète. Et ils y répondent de manière, mais hypocrite au possible, ah, nous ne savons pas d'où ça vient. Et Jésus leur répond, ben, je ne vous dirai pas par quelle autorité je fais ces choses. Ils raisonnent, ils calculent, qu'est-ce qui va être à leur avantage? Vous voyez? C'est ça le calcul, le raisonnement. C'est vraiment l'algorithme, c'est une mécanique interne qui est constamment en train de chercher son propre profit. On le voit dans Matthieu 9 également, vous savez, à l'occasion de la guérison du paralytique. Il est dit, Jésus connaissant leur calcul, leur raisonnement, c'est le même mot, il va leur dire, pourquoi avez-vous en vous de mauvais raisonnements ou de mauvais calculs dans votre cœur? Alors que les religieux étaient en train de dire, ils blasphèment. Mais c'était également le cas des disciples. Dans Matthieu 16, versets 5 à 12, on ne va pas lire toute l'histoire, mais vous savez, c'est à propos des restes de pain après la multiplication des pains. Il est dit, Jésus connaissant leur calcul, leur raisonnement, il va dire, pourquoi calculez-vous en vous-même, gens de peu de foi? Êtes-vous encore sans intelligence? Comment ne comprenez-vous pas? Gardez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. Donc, nous aussi, nous pouvons avoir ces phases de calcul, de raisonnement interne qui sont liées à un manque de foi. Notre confiance en Dieu doit grandir pour qu'on cesse avec ses raisonnements, ses calculs. Et un dernier exemple, avant d'aller vers nos calculs et nos raisonnements, parce qu'il faut bien que ça nous parle aussi. Un dernier exemple, c'est dans Jean 11, quand le Sanhédrin se met à calculer, même verbe, il vaut mieux qu'un homme meure afin que la nation ne périsse pas par la main des Romains. Cet homme, Jésus, fait beaucoup de miracles. Si nous le laissons faire, tous croiront en lui. Et les Romains viendront détruire et notre ville et notre nation. Et moi, quand je lis ça, je me dis, mais attends, mais quel lien fait-on entre Jésus qui fait des miracles et les Romains qui vont détruire la nation? Qu'est-ce qu'il y avait dans la cervelle de ces religieux pour lier les miracles que Jésus faisait avec l'idée que les Romains allaient détruire la nation. Je ne sais pas comment ils font le lien entre les deux. Et là, le souverain sacrificateur va dire, vous ne raisonnez pas, vous ne calculez pas, et c'est là le cœur, il est dans votre intérêt qu'un seul homme meure et que la nation ne périsse pas. Voilà, il est dans votre intérêt. Voilà le cœur du calcul. Qu'est-ce qui est dans mon intérêt? Voilà, il y a plusieurs exemples. Je les ai donnés pour donner un peu... voilà, qu'est-ce que ça veut dire, ces calculs, ces raisonnements dans la parole? Et je le résume ainsi. Le religieux, d'en bas, il raisonne et calcule, c'est-à-dire qu'il écoute son propre cœur, mais pour se protéger lui, protéger en particulier ses intérêts. Alors que le sage d'en haut, il écoute Dieu pour lui obéir. Il écoute et il obéit. Il ne raisonne pas. Et c'est important parce que ces calculs, si on n'y prend pas garde, finissent par endurcir notre cœur. Comme il est dit dans 2 Corinthiens 10, quand il est question des forteresses de raisonnement. Et Paul nous dit que les armes avec lesquelles nous combattons ne doivent pas être charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses de raisonnement. Voilà, dans ces calculs-là, on peut s'enfermer dans des raisonnements qui deviennent de véritables forteresses. Et il est dit que ces forteresses-là s'opposent à l'obéissance à Jésus, due à Jésus. Donc c'est très grave, hein. Un raisonnement, une forteresse de raisonnement s'oppose à l'obéissance à Jésus. C'est ce qu'a perdu les religieux incrédules face à Jésus. Alors maintenant, je vais essayer de donner dans le temps imparti deux exemples qui nous concernent directement. Si je n'ai pas le temps de développer le deuxième, je le ferai la prochaine fois. Mais je vais essayer d'être concis. Un premier raisonnement que l'on trouve, alors là maintenant je vais parler de raisonnement apparemment logique, mais qui vont avoir des conséquences, beaucoup de conséquences, dans notre marche et notre conception de la vie chrétienne. D'accord ? Premier raisonnement. Alors, ça commence bien, je pense, mais ça termine mal. Premier raisonnement. Un mort ne peut pas croire. Jusque-là, on est d'accord. Donc, Dieu doit donner la vie pour que, devenus vivants, nous puissions croire, nous repentir, œuvrer, etc. Un mort ne peut pas croire. Parfaitement d'accord. Mais le raisonnement logique, c'est binaire, c'est donc Dieu doit donner la vie. Il va sauver une personne pour qu'elle ait la foi qui est censée sauver et être justifiée et pratiquer les œuvres. Et ça, c'est un problème selon la parole. Parce que la parole, telle que je la comprends en tout cas, je vais vous donner des exemples, ne nous dit pas que Dieu commence par donner la vie pour que nous ayons ensuite la foi. La parole, on voit très très bien l'ordre inverse, en particulier dans le livre des Actes. C'est la repentance associée à la foi qui va donner la vie. En clair, c'est le passage de la chair à l'esprit qui fait passer de la mort à la vie. Donc la vie, ce n'est pas le préalable, c'est la conséquence de quelque chose. Donc vous voyez que ce raisonnement binaire, un mort ne peut pas croire, ok, donc Dieu doit donner la vie pour que l'on puisse croire. Ah ben tant mieux. Alors ça veut dire quoi concrètement? Ben, ça veut dire que la vie me tombe dessus, comme l'éclair tombe. Et voilà, donc, sans aucune part de l'homme, sans aucune responsabilité de l'homme, sans aucune action de l'homme, avant même toute idée de responsabilité, d'obéissance, de repentance, etc., Dieu donne la vie. C'est très séduisant de penser ainsi. Malheureusement, j'observe dans la pratique que les personnes qui raisonnent comme ça, un, s'enferment dans des raisonnements, parce que derrière ça, évidemment, il y a la question de l'élection. Et d'autre part, ça induit une paralysie de la vie chrétienne. Parce que, quand je parlais tout à l'heure de désir, peut-on encore désirer ce que l'on est censé déjà avoir? En fait, ça casse le nerf de la recherche, ça casse le nerf de la repentance, ça casse le nerf de l'obéissance. puisque j'ai déjà reçu la vie, et c'est la vie qui me sauve. À partir de là, ben, acte 2, verset 38, repentez-vous et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Acte 3, 19, repentez-vous afin que des temps de rafraîchissement viennent. Acte 11, 18, Dieu a donc accordé la repentance aux nations qui mènent à la vie. On pourrait chercher d'autres passages. Mais là, ce qui est vraiment profondément en cause, c'est la compréhension de la souveraineté de Dieu et notre rapport à la souveraineté de Dieu. Et on voit dans la parole que le passage de la mort à la vie ne se fait pas de manière instantanée. Et pour reprendre l'exemple que j'avais déjà pris d'Israël, c'est une chose de sortir d'Égypte, c'en est une autre que d'entrer dans Canaan. Et entre les deux, il y a ce quelque chose de mystérieux qui s'appelle le désert, dans lequel on éprouve de la faim, de la soif, dans lequel désert on découvre la parole de Dieu comme parole vivante. Et également, c'est le lieu, nous dit le livre de Deutéronome, de notre attachement à Dieu. Et pour continuer cette métaphore-là, vous voyez que l'Égypte, où on est complètement mort, le Canaan, où nous marchons par l'esprit, eh bien, il y a un lieu entre les deux qui s'appelle le désert, où nous passons de la chair à l'esprit, de la mort à la vie. Et c'est là qu'entre le raisonnement, ah oui, mais attends, soit t'es vivant, soit t'es mort. C'est un choix binaire. Mais non, dans la parole, il y a un entre-deux, où on peut d'ailleurs bien commencer et mal finir. Pensons tout simplement à une naissance naturelle. Ça commence par la fécondation, l'ensemencement. La parole nous dit que la semence, c'est la parole de Dieu. Celui qui a ma parole, ma semence, et qui la garde, c'est celui qui m'aime. Celui qui m'aime sera aimé, futur de mon Père. Je l'aimerai et je me montrerai à lui. Mais ça commence par l'ensemencement. Et puis après, comme dit un des psaumes, peut-être que l'un peut nous dire, vous savez, quand David parle de cette œuvre mystérieuse où tu m'as tissé dans le sein de ma mère, il y a une œuvre mystérieuse qui se fait, qui s'appelle la gestation, et au bout de 9 mois, il y a la naissance. 139? Ouais. L'ensemencement, cette œuvre mystérieuse de gestation, que l'on va comparer au désert, et ensuite, l'entrée dans la lumière, l'entrée dans la vie, la naissance. C'est d'ailleurs pareil pour le monde, pour l'histoire de l'humanité. Il n'y avait que Dieu, puis Dieu crée, mais ce qu'il crée n'est pas le monde définitif. C'est le monde actuel qui est un monde transitoire, qui est comme une matrice qui est là pour enfanter les enfants de Dieu. Et à la résurrection, nous entrons pleinement dans le monde éternel, glorifié, sanctifié, capable de se tenir dans la présence de Dieu. Vous voyez, il y a toujours ce nombre 3, les 3 étapes. Il y avait rien, ensemencement, gestation, deuxième phase, naissance, troisième phase. Il n'y avait rien, Dieu tout seul, si je puis dire, puis il y a l'acte de création, le monde actuel, puis on arrive au monde final. Nous étions morts, il n'y avait rien, puis le Seigneur nous vivifie, il œuvre en nous, et ensuite nous fait passer de là. Chair à l'esprit, on était mort, on devient vivant, mais entre les deux, il y a un travail qui se fait. Et c'est ce travail-là qui insécurise profondément. C'est là qu'on se dit, mais attends, mais est-ce que c'est Dieu qui fait tout? Est-ce que ça dépend de moi? Et c'est dans ce désert, dans cette gestation, qu'on entre dans des raisonnements. En fait, si on va au cœur des choses, on essaye de rationaliser et de comprendre l'œuvre de l'esprit. On veut maîtriser l'esprit. Et après, je dirai à la fin, en conclusion, pourquoi. Il y a une raison très précise. Alors, il faut que ça soit clair, évidemment, que l'appel, l'ensemencement, est une œuvre qui vient de Dieu. On ne peut pas s'appeler soi-même et on ne peut pas recevoir soi-même la semence. Donc là, on est bien dans la souveraineté de Dieu. Mais la question, c'est qu'est-ce qui se passe à partir du moment où nous sommes appelés et où Dieu a planté sa semence. Je vous rappelle, donc, dans Matthieu 13, il y a 4 terrains qui reçoivent de la semence, mais il n'y en a qu'un seul des 4 qui porte du fruit. Et dans 2 des 4, avec les cailloux et avec les ronces, dans deux des quatre, ça commence bien et ça termine mal. Exactement comme en Israël. Israël est sorti de l'Égypte, mais la majorité sont morts dans le désert. Il n'y a que la nouvelle génération, sous la conduite de Josué et Caleb, qui entre dans Canaan. Le vieil homme meurt dans le désert pour que l'homme nouveau entre dans le pays promis. Et donc, le problème avec ce raisonnement, un mort ne peut pas croire, donc il faut être vivant pour pouvoir croire, c'est que ça court-circuite l'œuvre du désert et ça fait du salut une œuvre instantanée. Et à nouveau, je dirais à la fin pourquoi est-ce qu'on veut absolument que cette œuvre soit instantanée. Notre chair veut que cette œuvre soit instantanée. Alors que nous voyons dans la parole un processus, une dynamique, qui est un mélange de souveraineté de Dieu d'un côté, mais qui fait pourtant appel à nos efforts. Faites tous vos efforts pour joindre à la foi, la vertu, la connaissance, et à l'amitié fraternelle et l'amour qui accomplit la loi. Et là, il est bien dit, faites tous vos efforts. Ah mais non, mais c'est Dieu qui veut tout faire. Il dit, faites vos efforts. Après que Dieu souffle par derrière, ça c'est le mystère de Dieu, mais faites tous vos efforts. Repentez-vous. Il n'est pas dit, repentez-vous. Ah oui, alors je dois me repentir, mais bon, il faut que Dieu me pousse d'abord pour que ça soit lui, parce que si c'est moi qui me repens, mais que c'est pas Dieu qui me pousse derrière, alors je vole la gloire à Dieu parce que je participe à l'œuvre de Dieu. Des raisonnements, les raisonnements. Repentez-vous, repentons-nous. Vous voyez? Faites tous vos efforts, faisons tous nos efforts. Et donc, c'est ça qu'on n'arrive pas à articuler. C'est la souveraineté de Dieu et également notre responsabilité. Et le désert, c'est le lieu des deux. Et quand on entre dans Canaan, la marche par l'esprit, on abandonne les œuvres mortes dont nous avions l'initiative et on entre dans l'obéissance. La foi vivante, elle est caractérisée par l'obéissance. Dieu conduit, je me laisse conduire. Dieu initie, j'obéis. C'est ça la marche par l'esprit. Alors il y a plein d'images comme ça, donc surtout dès qu'il est question de semences, il y a toutes les paraboles de Jésus qui nous parlent de cela. Comme il est dit dans Marc 4, ça va rappeler un texte, et la semence germe et elle pousse sans que on sache comment. Nous on aimerait tellement savoir comment pour pouvoir le maîtriser, maîtriser ce processus, maîtriser l'esprit. Vous voyez? Le raisonnement, il vient de là, hein. Il vient du contrôle de la maîtrise, pas le raisonnement. Donc c'est bien Dieu qui initie, c'est bien Dieu qui plante la semence, c'est bien Dieu qui appelle. Mais ensuite, il se passe quelque chose de mystérieux dans la matrice, dans le désert, qui nous amène à passer de la chair à l'esprit. Et ça, c'est chacun devant le Seigneur. Et c'est cette dose entre la souveraineté de Dieu d'un côté et la responsabilité de l'autre, l'obéissance, quand la parole dit quelque chose, nous sommes censés obéir et pas nous poser constamment des questions pour savoir si ça vient de Dieu, si ça vient de l'homme. Voilà, là on se perd dans, et en fait, comme je l'ai dit, les forteresses de raisonnement, in fine, ça nous amène à désobéir à Dieu tout en croyant être parfaitement orthodoxe. C'est ça le drame. Je rappelle qu'à celui qui a véritablement reçu de Dieu, Dieu va donner le désert, la gestation, et on sera dans l'abondance dans Canaan. L'eau que je te donnerai dans le désert va devenir en toi une source d'eau qui va jaillir jusque dans la vie éternelle, la vie de Canaan qui se prolonge dans l'éternité. Vous voyez ces étapes? Mais à celui qui n'a pas, on notera quoi? Ce qu'il pense avoir. Et pour moi, c'est un drame. On peut penser avoir reçu de Dieu et on se découvre à un moment donné qu'en fait, nous n'avions pas. À celui... Et d'ailleurs, c'est intéressant comme question. Comment peut-on ôter quelque chose que l'on n'a pas? Est-ce qu'on peut ôter du vide? Non. On note les illusions. On note les raisonnements qui étaient là pour rassurer notre chair. On perd l'illusion. À celui qui n'a pas, on ôtera ce qu'il pense avoir, on lui ôtera ses illusions. Voilà, je pense que ça a été. Alors, je ne vais pas développer plus ce point, mais on voit bien. Un raisonnement binaire, le mort ne croit pas, c'est vrai. Donc Dieu doit donner la vie pour qu'on puisse croire. Là, on court sa fuite à quelque chose. On veut sauter directement de l'Égypte à Canaan, et on ne veut pas passer par ce broyage intérieur qui permet le passage de la chair à l'esprit. J'aimerais maintenant un deuxième raisonnement, un deuxième calcul, qui commence bien là encore, mais parce que c'est un calcul, nous amène ensuite à des conclusions qui ne sont pas bibliques. Prémisse. Dieu est juste. Tout le monde est d'accord avec ça? Dieu est juste. Exactement comme un mort ne peut pas croire. Là, il n'y a pas de problème. Mais voilà qu'on commence à raisonner. Si Dieu est juste, alors, pour ce qui est du salut, il doit donner une chance équitable à chacun. Ça commence comme ça. Chacun doit avoir sa chance. Et donc, chacun doit pouvoir choisir de devenir croyant ou de rejeter Dieu. Ça commence par Dieu est juste. Et ça finit par, c'est l'homme qui décide de son salut. Et pour qu'il décide de son salut, il faut bien que Dieu lui ait donné une chance. Sinon, Dieu ne serait pas juste. Vous voyez? Et donc, ça commence avec des petits raisonnements. Par exemple, et je pose la question à l'Assemblée. Un enfant qui meurt avant l'âge de raison n'a pas eu sa chance. Est-il perdu ou est-il sauvé? C'est ce qu'on a envie de dire. Mais personnellement, je n'en sais rien. Par contre, je sais que Dieu est juste. Évidemment que nos entrailles aimeraient dire les enfants sont forcément sauvés. Et pourtant, dans la parole, on a dans certains des jugements, et sur les nations, et sur Israël, on a des jugements qui vont jusque des jugements sur des enfants. Vous voyez, là, il y a quelque chose qui est difficile pour nous. Il est difficile de croire que toute la famille de Corée puisse être jugée à cause de la désobéissance de Corée. Il est difficile pour nous d'accepter que j'entre dans le monde pécheur et perdu parce qu'un gars, il y a 6000 ans, nommé Adam, a désobéi à Dieu. Mais j'ai pas ma chance alors, puisque c'est pas de ma faute. C'est Adam qui a péché. Mais si on rejette cette logique-là, on rejette également la pensée, oui, mais il y a quelqu'un qui est venu, indépendamment de moi, et qui a accepté de porter mon péché sur la croix. Vous voyez? De même qu'Adam, par sa désobéissance, nous dit Paul, a entraîné toute l'humanité dans la mort, de même Jésus, le nouvel Adam, par son obéissance, va entraîner tous ceux qui lui obéissent, qui s'attachent à lui dans la vie. Moi, j'avais rien demandé. Et donc, nous nous retrouvons entre un premier Adam désobéissant à cause duquel j'entre dans le monde pécheur, et le nouvel Adam, indépendamment de moi, les deux, le nouvel Adam qui est venu dans le monde pour me faire entrer dans la présence du Père. Si on rejette l'un, on rejette l'autre. Oui, on a du mal à penser que mon état puisse être la conséquence de l'œuvre de quelqu'un d'autre. Ben oui. J'entre dans le monde pécheur à cause d'Adam, mais j'entre dans le royaume de Dieu grâce à Jésus. Si on a l'un, on a l'autre. Si on rejette l'un, on rejette l'autre. Mais ça commence comme ça, les raisonnements. Un petit enfant avant l'âge de raison n'a pas eu sa chance, donc il est forcément sauvé. Et ensuite, on ajoute les handicapés profonds, ceux qui n'ont jamais reçu l'évangile. Voilà. Et on commence à questionner la justice de Dieu. C'est la question de la justice, là, qui est mise en cause. Au nom de l'équité. En langage moderne, on dirait au nom de l'égalité. Ça commence bien, la justice de Dieu, mais on la ramène sur un plan humain, et surtout, on la ramène au niveau des tripes, des émotions, des... Mais comment Dieu pourrait-il permettre que... Ça. Or, la justice de Dieu est bien plus profonde que nos raisonnements humains. Dieu est fidèle à lui-même. Il juge, certes, selon la lumière reçue. Et là, je renvoie à la question de la responsabilité. Si Dieu nous dit « repentez-vous » et qu'on ne se repent pas, ben, il est juste pour nous châtier, puisque c'est une désobéissance. Et surtout, Dieu sauve par grâce et pas à cause de nos raisonnements. C'est une grâce, ça vient de Dieu. Et la parole nous montre par ailleurs, puisque je l'ai dit, que ce raisonnement-là, Dieu est juste, donc il donne à chacun sa chance. Dire qu'il donne à chacun sa chance, c'est que nous avons le choix d'obéir ou de nous rebeller. Non, la parole dit que avant que le Seigneur ne fasse entrer sa lumière en nous, nous sommes esclaves du péché. Nous n'avons pas de libre arbitre. Au contraire, Jean 8 nous montre, si vous gardez mes commandements, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Donc la liberté, le libre arbitre, c'est pas le préalable. C'est en fait la conséquence de l'œuvre de Dieu en nous. Pourquoi ? Parce que Dieu veut dans son royaume des êtres qui l'ont librement choisi. Et pour que nous puissions librement choisir, Dieu doit travailler en nous pour restaurer en nous cette liberté. Et comme je crois l'avoir déjà dit, la liberté selon Dieu n'est pas du tout la liberté selon les hommes. La liberté selon les hommes, c'est « je fais ce que je veux ». La liberté selon Dieu, c'est « je m'attache à Dieu pour faire ce qu'il veut ». Hein ? Jésus est libre parce qu'il est lié et soumis à son Père. Nous devenons libres lorsque nous sommes liés et soumis à Jésus. Donc, la conception biblique de la liberté, elle implique deux personnes. Là où la conception charnelle de la liberté n'implique que moi. Je fais ce que je veux. Je suis libre parce que je fais ce que je veux. Et la Bible dit que quand un homme fait ce qu'il veut, en fait, il est profondément esclave de lui-même. Il est centré sur lui. La liberté, c'est d'être centré sur l'autre. Et ensuite, il y a une pente glissante qu'on continue à raisonner en termes de « Dieu est juste, Dieu donne sa chance à chacun, donc je dois avoir un libre choix, je dois être confronté à un choix qui va décider de mon sort. » Ensuite, on va un peu plus loin. Dieu est tellement amour, comment pourrait-il envoyer des âmes en enfer, ou plutôt dans la géhenne ? Comment pourrait-il, puisque Dieu est amour ? Donc, in fine, il va bien finir par tous les sauver. Il y en a qui résonnent comme ça, ça s'appelle l'universalisme. Et c'est là que ça devient, si on pousse ça jusqu'au bout, si vraiment, in fine, tout le monde est sauvé, alors où est la liberté de chacun ? Parce que tout le monde est sauvé, ça veut dire pour moi que nous sommes tous en fait des machines. Ce sont les machines qui obéissent automatiquement à Dieu et, entre guillemets, pourront aller dans la présence de Dieu. Et donc moi je dis l'inverse. Le fait qu'il y ait une géhenne, c'est la preuve de l'amour de Dieu. Parce que Dieu est tellement amour qu'il veut une relation vraie avec ceux qu'il fera entrer dans son royaume. Et le prix d'une relation vraie avec ceux qu'il va faire entrer dans son royaume, c'est de les affranchir et de les rendre libres, ce qui implique par conséquent que certains ont authentiquement rejeté Dieu et en auront la peine. Donc vous voyez que l'articulation entre l'amour, la liberté et la destinée, en fait tout est lié. Comme je crois l'avoir dit d'une fois, toujours pareil, de la dialectique avec la troisième voie, j'aime bien ça. D'un côté, Dieu ne veut pas de robots. De l'autre côté, il ne peut pas créer Dieu. Parce que le mensonge du serpent, hein, vous serez comme des dieux. On reviendra d'ailleurs sur ce mécanisme-là, de la convoitise, au prochain message. Donc, il ne veut pas de robots et il ne peut pas créer Dieu. Donc, la troisième voie, il crée un être, Adam, dans un monde intermédiaire, pour pouvoir, comme le dit Pierre dans sa deuxième épître, le rendre participant de sa nature divine en fuyant la corruption qui existe dans ce monde. Et comment fait-il ça ? L'incarnation. L'union à Jésus. L'union à celui qui est divin pour être rendu participant de sa nature divine et pouvoir entrer dans la présence de Dieu. Ils ne seront jamais Dieu, mais nous sommes unis à l'homme-Dieu. Et par cette union-là, nous sommes rendus participants de sa nature divine, qui consiste entre autres à fuir la convoitise. Je reviendrai la prochaine fois. Et donc c'est intéressant, si je reviens au premier raisonnement. La vie me tombe dessus comme un éclair, et ensuite Dieu va faire tout le reste. Et malheur à moi, si je prétends devoir... Si je veux mettre une contribution de l'homme là-dedans, alors que la parole me dit je dois faire mes efforts, je dois obéir, je dois me repenser, etc. Malheur à moi si je pense comme ça parce que je vole la gloire de Dieu. Mais attendez, quand on commence à raisonner comme ça, Dieu donne la vie et le reste devient automatique. Ça ne fait pas de moi une sorte de robot, hein, où tout, tac, 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 tout, c'est Dieu qui fait, l'homme ne fait rien, et in fine, c'est Dieu qui va provoquer la persévérance, c'est Dieu qui provoque l'obéissance. Oui, en un sens, c'est vrai, Dieu est à l'initiative de tout, mais ça ne viole pas notre responsabilité et le fait que nous devons obéir. Vous savez, on n'arrive pas à articuler ces deux-là. Et inversement, de l'autre côté, l'universalisme, si vraiment tout le monde est fini à la fin, il y a même certains qui pensent que le diable lui-même sera sauvé à la fin, bah, in fine, en fait, c'était bien compliqué, il suffisait de faire des robots. Ça veut dire que le processus est automatique et tous ceux qui ont été créés seront sauvés. Et donc, paradoxalement, trop accentuer la souveraineté de Dieu, Dieu fait tout, et trop accentuer la liberté humaine, l'homme est à l'initiative de tout, bah, dans les deux cas, on viole la liberté et on viole l'amour. Un amour véritable qui est basé sur des êtres authentiquement rendus libres par la communion avec Jésus. C'est étonnant comment les deux extrêmes, et c'est toujours le cas, les deux extrêmes se rejoignent. Et comme je l'ai dit, on a du mal à articuler le troisième. Donc, on arrive maintenant à la conclusion. Ce qui se passe dans le ventre de la mère est mystérieux. Il dit le psaume 139. Ce qui se passe dans le ventre de la mère est mystérieux. Ce qui se passe dans le monde actuel, il y a une part de mystère. Comme je l'ai dit, si Dieu est amour, pourquoi tant de misère, pourquoi tant de, etc. On a du mal à nouveau, la part de l'homme, la part de Dieu. Les guerres, c'est les hommes qui le font, hein, c'est pas Dieu. Voilà, on a du mal à articuler tout ça. Part de mystère. En fait, quand on questionne, c'est l'œuvre de l'esprit. Mais de la même manière, ce passage, pour nous individuellement, de la mort à la vie, il y a une part mystérieuse. Quelle est la part de l'homme? Quelle est la part de Dieu? Si Dieu a une part là-dedans, ne vole-t-on point la gloire à Dieu? Mais d'un côté, on voit bien que nous avons des choses que nous devons faire. On a du mal à articuler ces deux. Et comme je l'ai dit, on a du mal en fait à mettre l'esprit en boîte et le faire entrer dans nos raisonnements théologiques et doctrinaux. On a du mal. Vous voyez? C'est intéressant parce que le Fils est une personne qui s'est incarnée. Par association, dans la relation au Père, le Père, on l'imagine comme une personne, dans la parole, un vieillard, cheveux blancs, barbe blanche, sur un trône. Mais l'Esprit, non. L'Esprit, un vent, une flamme. Les sept flammes devant le trône, les flammes qui descendent de la Pentecôte, un vent qui souffle, on ne sait pas d'où et on ne sait pas vers où. Une colombe, comme une colombe qui descend, il n'y a pas de représentation humaine de l'esprit. Mais là encore, je dénonce en passant, avant la conclusion, un petit raisonnement. Mais attendez, le Père, il est Dieu, le Fils, il est Dieu, l'Esprit, il est Dieu. Donc, si on prie le Père et si on prie le Fils, on doit pouvoir prier l'Esprit. Raisonnement. Dans la parole, il n'y a pas de prière à l'Esprit. On ne prie pas l'Esprit, on ne chante pas l'Esprit. Oui, c'est nos raisonnements qui nous amènent à. De la même manière, Jésus est divin, Marie est la mère de Jésus, donc Marie est la mère de Dieu. C'est encore un raisonnement. Pourtant, si Jésus est divin, tout Dieu n'est pas réduit à Jésus. Il y a le Père et il y a l'Esprit. Donc paradoxalement, dire que Marie est la mère de Dieu, c'est une négation de la Trinité. Et c'est mettre Marie au-dessus même de Dieu. Vous voyez? Ce sont des raisonnements. Ça s'appelle du sophisme. On raisonne. Et on va du coup au-delà de ce que dit l'Écriture par nos propres raisonnements. Donc, conclusion. Premièrement, méfions-nous des raisonnements binaires. C'est forcément ou vivant ou mort. Je pense que la parole nous présente un entre-deux pour le passage de la mort à la vie. Et je rappelle qu'un raisonnement binaire, ça s'appelle l'arbre de la connaissance du bien et du mal. On est binaire, bien, mal, vrai, faux, gauche, droite, 0, 1, noir, blanc. Dès qu'on a quelqu'un qui raisonne de manière binaire, méfiat, méfiat, il y a un souci. Je pense profondément que le raisonnement biblique n'est pas binaire, il est ternaire, et c'est ce qui ouvre le champ à l'action de l'esprit, à l'inspiration de l'esprit. C'est ce qui ouvre à l'esprit, c'est-à-dire l'arbre de vie. Vous voyez? Et le deuxième point, qui je pense est la motivation derrière tout ça, parce que je le constate, quand je parle comme ça dans certains contextes, certains groupes, la question vient immédiatement, ou quasi automatiquement, ah oui, mais alors l'assurance du salut. En fait, c'est là qu'on est en train de toucher à une sécurité que l'on met dans la tête des chrétiens. Dès l'appel, on leur bourre la tête avec l'assurance du salut. Et ça devient un mantra, ça devient des choses que l'on affirme. Vous voyez? Dès l'appel, sans laisser cette assurance du salut se développer et se mettre en place par l'apprentissage de la relation à Jésus, par le dépouillement et le revêtement, par l'expérience de l'esprit, la marche de l'esprit, c'est comme ça, ça se met en place. Je rappelle qu'en araméen, on ne parle jamais de salut, mais on parle de vie. Donc l'assurance du salut, très souvent, on a l'impression que c'est un billet de train, un train vertical qui monte de la terre vers le ciel, que l'on a mis dans la poche, et on a peur de le perdre, perdre l'assurance du salut, voyez, alors que le salut de la parole, c'est la vie. La vie avec le Seigneur, la communion avec le Seigneur, on sait si on l'expérimente ou pas. On sait si on est dans cette dynamique de marche avec le Seigneur, de progrès en progrès, d'approfondissement en approfondissement, de révélation en révélation de la parole, qui nous montre toujours plus notre visage naturel, il nous montre également qui est Jésus. On le sait, ça, au fond de nous, on le sait. Mais en fait, ce qui est touché, c'est l'assurance du salut. Pourquoi? Parce que on vend une assurance du salut au moment de l'appel. Parce que c'est au moment de l'appel qu'on va dire que la vie vient, et après, t'inquiète pas, Dieu va faire tout le reste. Mais ça t'est tombé dessus, tu es un élu, parfait, le reste. Ou alors, non, c'est bon, c'est au moment de l'appel, tu as fait le choix. Voilà, t'as fait le choix, tu as fait le choix de Dieu, non, maintenant accroche-toi à ça. On veut donner et garantir une assurance du salut au moment de l'appel. Et par là, on court-circuite l'œuvre de Dieu qui produit une véritable assurance, une véritable persévérance, une endurance dans l'épreuve, puisque l'épreuve n'est pas là pour nous faire mal, mais pour éprouver notre foi, notre confiance en Dieu, pour que nous soyons encore plus dans le repos avec lui. En clair, on promeut ce qui s'appelle, ce que Dietrich Bonhoeffer appelait une grâce bon marché, qui nous est donnée à l'appel. Tac. Et cette grâce bon marché ne se traduit que par une seule chose, c'est ce que dit Bonhoeffer, là c'est pas moi, il dit ça ne fait que justifier le péché. C'est bien quoi concrètement? Je pêche, mais le sang de Dieu me pardonne. De Jésus. Je pêche, le sang de Jésus. Je pêche, le sang de Jésus. Attendez, dans les religions païennes, c'est pas ce que l'on fait aussi. On a transgressé, on offre un sacrifice. On a transgressé, on offre un sacrifice. Ça s'appelle pas la première alliance, ça. C'est pas la religion mosaïque. Vous voyez? Et comme il était dit dans l'épître aux Hébreux, ces sacrifices-là ne pouvaient jamais régler la question du péché. Et donc Bonhoeffer dit, face à la grâce bon marché qui justifie le péché, il y a la grâce qui coûte, qui justifie le pécheur. Et pour que la grâce qui coûte justifie le pécheur, de cette justice qui est en fait associée à la marche par l'esprit, de cette foi qui est devenue vivante, elle justifie le pécheur, et donc pour arriver à cela, il y a la repentance, la traversée du désert, cette œuvre mystérieuse, et je ne prétends pas la rationaliser, c'est une œuvre mystérieuse de l'esprit qui va nous faire passer de la mort à la vie. Elle va faire en sorte, comme le dit Paul, la justice de Dieu est accomplie, Romains 8, 4, en ceux qui marchent par l'esprit. Donc si la justice s'accomplit quand on marche par l'esprit, c'est qu'il y a bien un processus qui nous fait passer de la chair à l'esprit. Si Jacques dit que c'est la foi qui a des œuvres qui nous justifient, c'est qu'on est bien passé des œuvres de la chair et des œuvres mortes à la pratique d'œuvres vivantes qui accomplit la justice de Dieu. Et quand on voit ça dans la parole, d'un seul coup, on voit que c'est partout en fait. Il y a un processus, ce n'est pas instantané. Voilà, donc la grâce au bon marché justifie le péché, et donc nous entretient dans une vie de péché, là où la grâce qui coûte, elle coûte quoi? La grâce qui coûte. Elle coûte à deux personnes. Elle coûte à Jésus, mais elle nous coûte aussi, parce que celui qui ne porte pas sa croix, celui qui ne ressemble pas à lui-même, ne va pas expérimenter la vie. Elle coûte à Jésus, elle nous coûte, c'est exactement ce que dit Paul dans Romains 6, unis à Jésus en sa mort, pour être unis à Jésus en sa vie. Celui qui voudra sauver sa vie, la perdra, parce qu'on prend ses paroles au sérieux. Mais celui qui la perd à cause de moi, voilà le coût à payer. Celui qui la perd à cause de moi, va la retrouver. On est encore dans ce processus. Perdre sa vie, c'est pas instantané. Le Seigneur nous confronte par sa parole, il rend sa parole tranchante comme un couteau qui va séparer l'âme de l'esprit, qui va mettre à nu les raisonnements et les calculs du cœur. C'est ça cette œuvre-là. On peut pas la court-circuiter. Dès qu'on y injecte nos schémas théologiques, nos raisonnements et nos calculs binaires, la parole de Dieu s'émousse et elle ne nous fait plus mal. Au contraire, elle va même aller dans notre sens. Et ça, c'est dramatique quand la parole de Dieu va dans notre sens, dans le sens de nos calculs. Voilà, donc faisons bien attention à cela. Gardez la parole vivante, gardez la semence vivante pour qu'elle puisse nous amener au fruit, le fruit de l'esprit, les dons de l'esprit, les œuvres de l'esprit, l'esprit. Mais n'essayons pas, par nos raisonnements et nos calculs, de mettre l'esprit en boîte. Je pense que c'est vraiment ça le péché fondamental. J'ose dire qu'il y a un lien, je ne dis pas que c'est ça, mais il y a un lien avec le blasphème contre l'esprit. Parce que quand on enferme l'esprit en boîte et qu'on l'empêche de faire son œuvre, in fine, on le paye. On le paye de notre salut. Les religieux qui ont voulu enfermer Jésus dans leurs raisonnements et leurs calculs, c'était pour leur propre perdition. Et donc je pense que vouloir enfermer l'esprit et le mettre en boîte par nos calculs et nos raisonnements binaires, quelque part il y a un lien avec le blasphème de l'esprit. Donc prenons la parole pour ce qu'elle est, nous devons y obéir, rendons gloire à Dieu pour ce qu'il fait, et à ce que Dieu initie, et ne court-circuitons pas notre responsabilité également dans ce que Dieu nous demande. Et quand nous serons dans le monde qui vient, on pourra toujours se retourner pour voir exactement, et sans doute d'ailleurs je le pense, on dira Dieu a tout fait, mais ça n'a pas enlevé dans le temps présent notre responsabilité. Que le Seigneur bénisse cette parole qui n'est pas simple, j'en suis parfaitement conscient, qui remue également, parce que ça touche à ce que l'on appelle l'assurance du salut. Ça c'est la chair qui aime être rassurée dès l'appel et qui refuse le processus de mort. Voilà, que le Seigneur bénisse cela et nous fasse grâce, mais de la grâce qui coûte, pas la grâce bon marché.